faut pas se comparer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'écouter. Ce qui est important pour moi ne va pas être ce qui est important pour l'autre. Il faut vraiment, vraiment revenir à soi.
Il n'y a pas de réussite sans travail. Et ce travail ne s'arrête pas aux portes du mariage.
C'est comme les fondations d'une maison. S'il n'y a pas cet axe-là spirituel, ce qui va pouvoir se construire, ça va pouvoir se construire, mais ça ne sera peut-être pas aussi solide. Ça ne veut pas dire que les couples musulmans, non musulmans ne peuvent pas être heureux. Ce n'est pas ça. C'est qu'eux, ils basent leur fondation sur d'autres choses. Mais normalement, pour un couple musulman, pour qu'il se sente un minimum épanoui, l'aspect religieux doit être la base.
Un couple, c'est une entité où l'un impacte l'autre, positivement ou négativement. Mais effectivement, s'il y en a un qui n'a pas bien isolé sa porte, tout le monde va avoir froid, quoi. C'est pas juste toi.
Chaque chose que je peux faire dans ma vie de couple, pour mon conjoint, pour mes enfants, si je dis que je le fais avant tout pour Dieu, déjà, ça donnera envie de le faire. Parce qu'encore une fois, Dieu n'oublie pas et ça sera récompensé, Inch'Allah, en hassanet. Et ça met une toute autre dimension dans sa vie de couple. Parce que ma vie de couple, ça sera un acte d'adoration du matin au soir.
Assalam alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Dans ce nouvel épisode, je reçois à nouveau Farida Kassed, l'une de vos invitées préférées. Et oui, les statistiques peuvent en témoigner. La première fois que l'on s'est parlé, c'était pour converser autour des choses à faire, à vérifier, avant de se marier. Durant cette nouvelle conversation, on se focalise sur l'étape suivante, le mariage en tant que tel, et plus précisément, son épanouissement. Tout le monde peut avoir un couple heureux. Ce n'est pas réservé qu'aux autres ou à une élite qui aurait craqué le code et refuserait de le partager. En revanche, comme toute réussite, celle-ci n'est pas exempte de plusieurs éléments déterminants et qui parfois demandent du temps. Par ailleurs, rien ne s'acquiert sans labeur, surtout pas la sérénité des cœurs. Lors de la première partie de l'épisode que vous vous apprêtez à écouter, Farida Kassed, psychologue et thérapeute de couple, présente l'un des trois axes fondamentaux à développer pour solidifier son union, la dimension spirituelle. Durant notre échange, on s'interroge sur quelle différence cela fait réellement et concrètement de mettre Allah au centre de notre relation conjugale. Pourquoi on a tous à gagner à laisser infuser plus de religiosité dans notre foyer? Et surtout, comment on fait? Je tiens à préciser que cet épisode n'a pas vocation à donner des leçons. Les exemples mentionnés sont des cas concrets et les conseils sont de beaux rappels avant tout pour Farida et moi. Je rajouterai que personne n'est parfait, ou du moins ceux qui l'étaient nous ont précédés il y a de cela quelques centaines d'années, alhamdoulilah. Cette conversation, c'est avant tout une discussion à micro ouvert avec une experte de surcroît, mashallah. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de mon invité et vous souhaite, inshallah, une excellente écoute.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Farida, comment vas-tu?
Alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh, Medina, ça va très bien, alhamdoulilah, et toi?
Je vais très bien, alhamdoulilah. Je suis ravie de te recevoir derrière mon micro, au sein de l'émission Le Halal Love Podcast, pour la seconde fois. Je crois que je ne te l'ai jamais dit, Farida, mais le premier épisode qu'on a enregistré ensemble, il fait partie du top 3 des épisodes les plus écoutés du podcast. Il y en a 29 déjà, donc c'est pas rien. Et je suis contente parce que je me dis que les auditeurs seront au moins aussi ravis que moi de pouvoir bénéficier de tes précieux conseils et de ta bonne humeur une seconde fois, alhamdoulilah.
Eh ben, Inch'Allah, j'espère que les conseils qu'on va pouvoir prodiguer, les échanges qu'on va pouvoir avoir toutes les deux, Inch'Allah, vont pouvoir être bénéfiques. C'est vraiment l'intention principale.
Alhamdoulilah, bah, on a la même, ça tombe bien. Ça
bon,
tombe
c'est
bien.
Parfait.
La première fois qu'on s'est parlé, toi et moi, Farida, c'était justement pour donner des outils de réflexion et de décision à l'encontre des célibataires qui souhaitent se marier. Et puis, ce matin, on se retrouve pour parler justement de l'étape suivante, à savoir le mariage. Et même plus précisément, l'épanouissement au sein du couple au sein du mariage. Parce que la conviction personnelle que l'on partage, c'est que tout le monde peut avoir un couple épanoui. C'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à certains couples que l'on voit sur les réseaux sociaux. Et justement, à une ère de grande comparaison, on a parfois l'impression que nous, on peut pas avoir ce bonheur-là. Et on voulait, avec Farida, consacrer un épisode à la réappropriation de cet épanouissement et de ce bonheur-là. Farida, pour commencer, on va reprendre les bases. Ma première question, avant de rentrer justement dans les outils, dans les conseils pour avoir un couple qui nous ressemble et un couple heureux, eh bien ma première question, c'est quoi un couple heureux? C'est quoi un couple épanoui?
Alors, l'épanouissement, pour ma part, c'est être en paix avec soi-même, être bien dans sa tête, être bien dans son cœur et dans son corps. Ça, c'est l'épanouissement d'une manière générale. Pour être épanoui en couple, ça passe par d'abord un épanouissement individuel. L'autre ne pourra pas me réparer, si je peux me permettre de parler comme ça. Ne pourra pas les failles que j'ai pu avoir dans mon histoire de vie, etc., les combler. Il pourra être m'accompagner à certains moments de ma vie, etc., mais il ne pourra pas tout réparer et tout compenser. Donc, pour moi, couple épanoui, c'est un couple où d'abord, moi, je suis bien avec moi-même et je continue à l'être en tant que personne. C'est-à-dire, je suis en paix. Les échanges que je peux avoir avec mon époux, la qualité de ma relation conjugale, elle est en accord avec moi-même. Que ça soit mes aspirations religieuses, physiques, émotionnelles, etc. C'est juste, bien évidemment, entre guillemets, une continuité de ce que je suis. Et donc, du coup, si je suis bien dans ma tête, il y a des probabilités que je sois bien en couple. Si je ne suis pas bien en tant que personne, je ne serai pas bien dans mon couple. Ça, c'est une réalité. Par contre, après, la notion d'épanouissement, ce qui me rend épanoui va être différent d'une personne à une autre. Et ça, il faut le respecter. Ce qui va convenir à la voisine, à ma sœur Philène, n'est pas forcément ce qui va me convenir à moi. Tant mieux, parce qu'il y en a pour tout le monde, alhamdoulilah. Donc voilà, mais c'est en tout cas que ce qui, moi, est important pour moi dans ma vie, en tant qu'être individuel, ça le soit également dans ma vie de couple, qu'il y ait une continuité et que je sois libre d'une certaine manière. Pas libre de faire ce que je veux, enfin, c'est pas ça, mais que je suis en paix. Je rentre chez moi avec un cœur apaisé et que je rentre pas chez moi avec une boule à l'estomac. Si je rentre chez moi où je me sens mieux au travail que dans mon foyer, là, il y a un problème.
Ah là, t'as donné énormément d'éléments de réflexion. Je vais en retenir trois. Le premier, c'est que donc un couple épanoui, c'est deux personnes qui sont déjà bien, tous les deux. Enfin, à part. Ça passe vraiment par ce... Il n'y a pas d'épanouissement de couple si deux personnes ne sont pas... alignées un peu avec ce qu'elles sont, avec ce qu'elles veulent, etc. La deuxième chose que je retiens, et c'est ce qu'on a dit en introduction, c'est que dans un couple épanoui, il n'y a pas de place pour la comparaison. Il n'y a pas à se comparer à d'autres couples, puisqu'en fait, un couple épanoui, vous êtes épanoui parce que vous êtes à l'aise avec ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez au sein de votre couple. Et la troisième chose, qui n'est pas des moindres, tu vois, tu as parlé de la paix, tu as parlé d'alignement. Ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la foi, avec la religion. On est l'islam, la paix enfin, la religion du salam, la religion de la paix, en fait. La religion de la soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala, évidemment. Mais justement, on se soumet parce que cette soumission nous apporte la paix par la suite. Donc, tu vois, pour moi, dans la définition même d'un couple épanoui, il y a déjà ces trois éléments-là et il y a déjà la place pour la religion, subhanallah.
Exactement, tu as très bien reformulé les trois axes principaux. Et voilà, et comme tu l'as bien dit, faut pas se comparer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'écouter. Ce qui est important pour moi ne va pas être ce qui est important pour l'autre. Il faut vraiment, vraiment revenir à soi. À ce qu'on avait dit au cours du premier podcast, ce qui est important pour moi. Donc, ça passe par un minimum une connaissance de soi. Ce qui est important pour moi, j'essaie de le cultiver d'abord individuellement, avant de le continuer en couple. Mais c'est pas l'autre, encore une fois, qui va réparer les manquements que j'ai pu avoir. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de couples. Quand on fait une thérapie de couple, où l'un des deux Après, c'est pas au début hein, de la relation qu'il le constate, mais c'est après quelques années de mariage. Et quand je leur pose la question pourquoi ils se sont mariés, ils me regardent et ils me disent, je voulais fuir chez moi. J'avais de mauvaises relations avec mon frère, avec un de mes parents ou mes deux parents. Et entre guillemets, bah, je voulais que l'autre, en quelque sorte, répare ça. Ben non, l'autre ne peut pas réparer ça. Même si c'est un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, le meilleur de la galaxie, il ne pourra pas. Parce que ce n'est pas son job. Il y a des choses qui nous appartiennent à nous en tant que personne. L'autre, encore une fois, peut nous aider, nous accompagner, mais il ne pourra pas réparer. C'est pas son rôle en tant que mari, ça sera pas son rôle en tant qu'épouse. Et si déjà on commence avec une défaillance comme celle-ci, entre guillemets, un déséquilibre plutôt que défaillance, ça va se répercuter par la suite. Donc, soyez en paix avec vous-même, individuellement, en tant que personne, en tant qu'entité propre, en étant aligné par rapport à vos valeurs spirituelles, si elles sont importantes pour vous, par rapport à vos valeurs émotionnelles, etc., pour pouvoir ensuite prétendre à une certaine stabilité, un certain épanouissement dans son couple, un épanouissement qui ne sera pas tous les jours là. Faut pas non plus idéaliser les choses, hein. Il y a des hauts et des bas. C'est comme un patient qui me disait, bah là, actuellement, c'est un peu l'orage dans mon couple, mais des fois c'est le soleil, des fois c'est la pluie, des fois c'est des averses, des fois c'est la neige, des fois c'est le tsunami. Voilà. Il y a des fois ça sera très bien, il y a des fois ça sera un peu moins bien. Donc l'épanouissement ne veut pas dire idéalisation. Que les choses soient claires. Je peux être épanouie dans mon couple avec aussi des hauts et des bas. Et ça, c'est la réalité humaine aussi, parce que on a été baigné à coups de Walt Disney. Et là, tout ce qu'on puisse là, avec maintenant, c'est plus trop Walt Disney, mais c'est plus les réseaux sociaux où, entre guillemets, on montre l'appartement témoin à chaque fois. Donc, si des gens ils pensent que dans chaque foyer la maison elle est très rangée, parfaitement rangée comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ou que tous les jours c'est des vacances, enfin, pas tous les jours, mais à chaque vacances c'est des vacances à l'autre bout du monde sur une plage magnifique. Non, ça c'est pas la réalité de la vie. Donc, il faut aussi bien trouver un juste milieu par rapport à tout ça. On peut être épanoui, alhamdoulilah, ça ne fait pas partie à une élite, même si aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, les statistiques ne sont pas très élevées à ce niveau-là sur l'épanouissement. Il y a très peu de couples qui sont réellement épanouis dans leur vie conjugale. On peut l'être, ça demande du travail, parce qu'on n'a rien sans rien. Que ce soit dans une relation amicale ou dans une relation professionnelle, il y a un minimum d'investissement. Et dans le mariage, c'est exactement la même chose. C'est plus la génération de nos parents, nos grands-parents, où c'était à la vie, à la mort, où tout était acquis. Là, ça n'existe plus. Ça. Enfin, cette conception-là des choses, elle existe encore un petit peu. On ne va pas non plus être radical, mais en tout cas, dans les sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons en France, c'est acquis. Hein. C'est très rare, les gens qui pensent réellement comme ça. Donc, c'est un investissement, c'est des efforts pour que ça se passe. De manière la plus agréable possible, le plus souvent possible, mais il y aura des averses, il y aura des orages, voire même des tsunamis, et ça fait partie de la vie, tout simplement.
Oui, c'est la vie qui est comme ça, clairement. Et tu fais bien de le préciser, un couple épanoui, c'est pas, y a pas de stabilité dans l'épanouissement parce qu'en fait, encore une fois, le terme insan, qu'on traduit par l'homme ou les hommes en arabe, ce sont des êtres en mouvement, en fait. On ne fait que changer. Et en fait, parfois, ce qui peut même rendre malheureux, c'est le fait de ne pas vouloir changer. Mais il faut partir du principe qu'un couple épanoui, c'est aussi un couple qui accepte les périodes d'accalmie, où on n'est pas toujours au top, les périodes où ça va un petit peu moins bien, mais qui essaye de les gérer tant bien que mal. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, tu disais qu'effectivement, on n'est plus dans cet acquis comme nos parents, on se disait ben, maintenant, c'est à la vie, à la mort. Mais l'avantage aussi, je pense que c'est que on est aussi plus conscient du travail à faire. Parce qu'en fait, parmi nos aînés, il y a des personnes qui sont effectivement hein, restées mariées 40 ans, 50 ans, peut-être même 60 ans, mais dans quelles conditions? L'avantage de cette génération, c'est qu'on a envie d'être dans un véritable épanouissement. C'est-à-dire pas rester pour rester, mais c'est vivre un mariage avec sa réalité. Et la réalité, c'est que c'est pas tous les jours Hollywood, quoi. Mais déjà, d'être dans une gratitude permanente où on n'est pas malheureux, où on n'est pas malheureux dans une période trop longue, parce qu'il y a des périodes de malheur, mais il faut juste pas que ça dure trop longtemps. C'est aussi ça, un couple épanoui, et je te remercie de le préciser. Et une dernière chose que je trouvais très, très intéressante, c'est que c'est ce qu'on a dit quand on a fait l'épisode sur la préparation au mariage. Il n'y a pas de réussite sans travail. Et ce travail ne s'arrête pas aux portes du mariage. C'est pas j'ai travaillé pour me marier, puis une fois que je suis mariée, je ne travaille plus. On est d'accord que même là, quand je le dis, ça n'a pas de sens. Donc effectivement, la notion de travail continue, mais le travail, c'est pas le goulag. Il y a une différence. Le travail, ça peut être fun. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on va essayer de promouvoir, parce que pour nous, un couple épanoui, un couple heureux, et même dans Coran et la Sunna, c'est un couple dans lequel il y a de l'amour, de la bienveillance, du travail certes, mais beaucoup de joyeuseté aussi. Donc pour rentrer un peu dans le vif du sujet, Farida, tu as commencé justement à nous parler des axes qui composent un socle sur lequel peut se reposer un couple qui est épanoui. Avant que tu nous présentes en détail ces trois axes-là, ma première question c'était... comment tu les as choisis ? Est-ce que c'est des critères qui sont établis ? Est-ce que c'est lié à ton expérience personnelle ? Est-ce que c'est lié à ton expérience de professionnel en tant que thérapeute et psychologue ?
Alors, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est un mélange, bien évidemment, de l'aspect spirituel, parce qu'on là, on parle bien évidemment aussi, enfin, du couple en général, mais plus particulièrement sur le couple musulman. Donc, bien évidemment, l'axe religieux est quand même la base, la fondation nécessaire pour que les autres axes dont je vais parler se passent de la meilleure des manières. Donc, bien évidemment, il y a l'aspect spirituel. Il y a aussi, bien évidemment, mon expérience de psychologue. Sur la théorie, d'accord, mais ça suffit pas, surtout sur les patients que j'ai maintenant depuis plus de 10 ans, donc du coup entre guillemets qui donnent mine de rien une énormément d'informations sur l'évolution de la réalité du couple et de la réalité du couple musulman en Occident. Et puis c'est également mon expérience personnelle, mon expérience familiale. Enfin, c'est là où je puise des informations nécessaires au couple. Du coup, je l'intègre et donc du coup, j'essaie un peu de la partager en différents points, différents axes pour une meilleure compréhension et puis pour une meilleure direction.
Ok. Et justement, avant de nous donner le détail de ces axes-là, est-ce qu'il y a une hiérarchie par ordre d'importance ? Je crois que tu as commencé en disant que le premier axe, c'est l'axe spirituel. C'est vraiment le premier parce que c'est le principal, c'est ça ?
Je pense que oui. Je pense que moi, je mettrais l'aspect spirituel en premier pour être transparente avec toi, parce que c'est comme les fondations d'une maison. S'il n'y a pas cet axe-là spirituel, ce qui va pouvoir se construire, ça va pouvoir se construire, mais ça sera peut-être pas aussi solide. Ça ne veut pas dire que les couples musulmans, non musulmans, ne peuvent pas être heureux. C'est pas ça. C'est qu'eux, ils basent leur fondation sur d'autres choses. Mais normalement, pour un couple musulman, pour qu'il se sente un minimum épanoui, l'aspect religieux doit être la base. Ça ne veut pas dire qu'on se marie que parce que la personne elle est musulmane, on l'avait vu lors du premier podcast, mais l'aspect religieux doit être la base. Parce que s'il n'y a pas ça, les événements de la vie, les épreuves de la vie auront pris finalement une autre tournure parce que cette base-là elle sera pas là, elle sera pas identifiée. Donc moi, je mettrais en premier lieu l'aspect spirituel parce que c'est la base, c'est la colonne vertébrale du couple, c'est censé normalement être la colonne vertébrale du couple, ça l'est pas toujours malheureusement. Je mettrais en deuxième point l'aspect psychologique avec plusieurs sous-rubriques, si je peux me permettre de parler comme ça, parce que c'est mon domaine de compétence. Et après, j'ai une petite rubrique sur l'aspect physique, parce que c'est aussi important. On n'est pas que des êtres qui adorons Dieu. On a besoin aussi, bien évidemment, de répondre à la personne est censée répondre aussi à un minimum de nos besoins physiques, émotionnels, psychologiques. Donc, c'est sous cet ordre-là que j'ai choisi un peu d'identifier les axes principaux.
Bon, super, Bismillah, on a hâte. Je t'en prie, parle-nous de cette fameuse colonne vertébrale, comme tu l'appelles si bien, l'axe spirituel. En quoi il est important ? Pourquoi c'est la base ? Qu'est-ce que ça contient en fait ? Qu'est-ce qu'un couple épanoui fait spirituellement ?
Alors, pourquoi déjà c'est la base ? Je vais utiliser deux points. D'abord, une métaphore qui ne vient pas de moi, qui vient d'un de mes patients, pour qui il y a une différence spirituelle dans son couple. Finalement, déjà, il y a très peu de couples qui viennent me consulter pour des problèmes, entre guillemets, d'ordre spirituel. Parce que je pense que finalement, l'aspect spirituel, les problèmes qu'ils ont résultent indirectement du fait d'être d'un manque de spiritualité. Voilà, si je peux me permettre, sans porter de jugement, bien évidemment, sur leur pratique ou sur le contenu de leur cœur. Mais voilà, donc il y a ce premier point de vue-là. Et ensuite, je pense que le fait d'avoir, regardez, par rapport à un événement, il y a plusieurs grilles de lecture possibles. En fonction de l'âge, en fonction du sexe de la personne, en fonction de la maturité, en fonction du domaine d'expertise ou pas de la personne. Le fait que tous les deux soient à peu près, je dis bien, parce que c'est pas quelque chose de rationnel, voilà, mais que tous les deux ont à peu près le même regard religieux sur la vie, dans leur propre vie, ça aide à déjà à mieux comprendre les événements, et aussi dans certaines actions, à mieux agir. On ne va pas agir de la même manière si on a, entre guillemets, conscience et envie de plaire à Dieu que quand on n'a pas cette conscience-là. Sur plein de choses, que ça soit sur l'aspect financier, que ça soit sur l'aide qu'on peut accorder à nos proches, pour, je sais pas, quand on a une certaine conscience religieuse et qu'on a envie de plaire à Dieu, même si ce ne sera pas bien évidemment parfait, il y a des choses qu'on va vouloir faire parce qu'on sait que ça plaira à Dieu. Aider ses parents. Même si peut-être dans certaines familles aussi, l'aspect culturel est très présent et ça aide aussi à... Ça facilite cet engagement religieux aussi par rapport à cette aide parentale. Mais du coup, le fait d'être en lien avec Dieu, de vouloir lui plaire, ça va m'aider à faire certaines choses. Il y a des choses, je vous garantis, dont pour chacun d'entre nous, on ne les ferait pas s'il n'y avait pas Dieu dans nos vies. Je pense qu'on peut... Ça, j'en suis persuadée. Ça, c'est une réalité. Je sais pas, exemple tout bête, là, c'est la période des intérêts bancaires. Je pense que si on n'était pas croyant, ben, les intérêts bancaires, ben, ça nous fera plus d'argent, on pourra les utiliser comme on le souhaite. C'est un truc tout bête. Mais si dans un couple, parce qu'on, j'en reviens à la notion de couple, si les deux partagent une vision similaire des choses, parce que l'islam, c'est censé aussi guider tout notre quotidien. Tout. Donc, si sur certaines choses du quotidien, alhamdoulilah, on met l'aspect religieux à chaque fois sur nos actions, etc., et que les deux partagent ce même alignement-là, ça facilitera les choses. Si on a un qui est très proche de Dieu, qui tend à ça, l'autre qui n'est peut-être pas dans cette démarche-là spirituelle, ça va créer énormément de décalage. Ça, c'est une réalité. Parce que moi, je vois des couples, il y a des hommes qui, par exemple, ou des femmes, peu importe, un des deux qui, à un moment donné du parcours conjugal, va passer peut-être un peu plus de temps avec ses parents. Parce qu'il y a une fragilité psychologique, une fragilité physique, une fragilité financière. Si les deux savent l'importance des parents en islam, même si bah, l'autre est moins présent pour sa famille, moins présent pour les enfants, c'est une réalité, c'est un fait, il va quand même le soutenir. Je sais que ce n'est pas facile, mais parce que c'est important pour toi, c'est important dans ta relation parentale, c'est important pour Dieu, je prends sur moi. S'il n'y a pas cet aspect-là, écoute, pour moi, Dieu, il n'est pas si important que ça. Que tu passes tout le week-end chez tes parents, bah, ça me dérange. Parce que tu n'as pas du temps à consacrer à moi et éventuellement à nos enfants. Mais si on est sur le même axe, on peut mieux accepter certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a des choses, notamment peut-être dans des moments où un peu de difficultés, d'épreuves, on essaie d'un peu plus patienter parce qu'on sait pour qui on le fait. On ne le fait pas pour l'être humain, parce que la créature, elle est ingrate, elle oublie, mais on le fait pour celui qui n'oublie jamais, alhamdoulilah, et c'est pour celui qui va nous récompenser. Donc, du coup, ça aide un peu à prendre de la hauteur, et dans certaines situations, je ne dis pas qu'il faut accepter toutes les situations, ce n'est pas ce que je dis encore une fois, ça aide à mieux patienter, à mieux accepter, parce qu'on sait que la finalité, ce n'est pas mon conjoint ou ma conjointe, alhamdoulilah, c'est Dieu. Donc ça, c'était la... Je te laisse rebondir, ouais, parce que je vois que tu veux rebondir, après j'utiliserai une autre métaphore. Vas-y.
Oui, parce qu'en fait, je voulais vraiment qu'on prenne le temps de s'arrêter sur deux choses très importantes que t'as citées ou que t'as mentionnées. La première, c'est qu'en fait, tout de suite, ce qu'on comprend, c'est que en fait, l'acte spirituel, c'est pas juste de faire des actes d'adoration en commun, c'est de laisser la religiosité, l'islam, infuser dans le couple, infuser dans nos actes, dans nos propos, dans le comportement, dans l'adab qu'on peut avoir l'un vers l'autre, dans les relations avec nos parents. C'est ça, laisser infuser, en fait. Et c'est hyper beau, c'est hyper précieux. Et Dieu sait si j'ai eu des discussions avec mes proches à ce sujet-là, parce que parfois, effectivement, on regarde autour de nous et on se dit, c'est vrai que on a des manquements, on n'est pas là où on voudrait être religieusement, mais en fait, alhamdoulilah, le fait d'être dans l'islam depuis des années, quand on est né dans une famille musulmane, on sent qu'il y a des choses, il y a un niveau en bas duquel on descend pas, dans notre rapport avec nos parents, dans le respect avec nos parents. Et on pourrait se dire, oui, bah, c'est parce que c'est culturel, en Afrique de l'Ouest, on est très proche de la famille. C'est vrai, mais il y a plein de pays en Afrique de l'Ouest, il y a plein de pays en Afrique tout court, et on ne partage pas tous la même religion. Et donc, on peut voir ces nuances-là qui sont clairement apportées par la religion, par l'islam. Ça, c'est factuel quand on observe autour de nous, sans aucun jugement, aucun. C'est vraiment juste qu'on prenne tous le temps d'observer et on voit à quel point, subhanallah, il y a quand même une différence entre le cultuel et le culturel. Et l'islam, c'est magnifique parce que je trouve que ça permet vraiment d'aller plus loin dans certains actes. C'est-à-dire que nous, on peut avoir cette gentillesse dans le cœur, mais avec la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le comportement du prophète Mohammed, on voit des choses où on se dit non, je peux aller encore plus loin, et on est en plus récompensé du fait d'aller plus loin dans notre patience, dans notre bon comportement ou autre. Et le deuxième point justement que je voulais aborder, c'est la patience. Tu vois, tu disais effectivement l'acte spirituel, ça s'infuse, enfin la dimension spirituelle, ça s'infuse dans notre quotidien. Et puis il y a aussi le fait que il y a la patience, la résilience, le fait de prendre sur soi. Ça ne veut pas dire effectivement accepter tout et n'importe quoi, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne une dimension à son ménage, cette patience-là, qui permet parfois justement de sauver son ménage à des moments où on n'aurait pas eu de patience à l'instant T. Et 5 ans, 10 ans plus tard, on le regrette parce qu'on se dit oui, mais en fait, c'était juste un mauvais moment à passer. Si j'avais eu la possibilité d'attendre, je serais restée dans mon ménage et puis je serais heureuse avec mon époux, avec mon épouse. Et je voulais vraiment qu'on prenne le temps de s'arrêter là-dessus parce que j'ai trouvé ça très beau et très utile.
La métaphore que tu as utilisée sur l'infusion, je trouve ça très très beau. C'est vrai parce que c'est pas uniquement l'islam, ça se résume pas uniquement à des actes cultuels, uniquement prier 5 fois par jour, parce que la prière 5 fois par jour, si on regarde bien, mis bout à bout, ça fait pas c'est une demi-heure et une heure grand maximum, même pas. Donc c'est pas ça, c'est important bien évidemment, c'est une base dans l'islam, c'est pas ça que je remets en cause bien évidemment, mais le plus important c'est le comportement, le fait que ça s'infuse. Et justement dans cet aspect-là conjugal, le mariage c'est un acte d'adoration, c'est censé justement pourquoi c'est la moitié de la foi, il y a une raison quelque part, il y a une sagesse, mais c'est que chaque chose que je peux faire dans ma vie de couple, pour mon conjoint, pour mes enfants, si je dis que je le fais avant tout pour Dieu, déjà, ça donnera envie de le faire. Parce qu'encore une fois, Dieu n'oublie pas et ça sera récompensé, Inch'Allah, en hassanet. Et ça met une toute autre dimension dans sa vie de couple. Parce que ma vie de couple, ça sera un acte d'adoration du matin au soir. Même des fois, voilà, il y a des, je sais pas, des fois faire le ménage qui est vraiment l'activité la plus c'est pas la plus gratifiante en soi et la plus agréable, je pense qu'il y a pas, je connais pas de personne qui aime faire ça, mais le fait de se dire que on va le faire aussi, on fait pour Dieu, comme ça nos enfants ils vont rentrer, nos maris ils vont rentrer, ça va être agréable, c'est l'environnement est propre et chaleureux. Si on dit qu'on le fait pour Dieu, ça donnera un peu plus envie de le faire. Ça ne veut pas dire que j'ai pas dit que c'est la femme qui doit le faire. C'est pas dans ce sens-là, bien évidemment. On va pas rentrer dans ce débat. C'est pas le but. C'est juste que des fois, pour certaines choses, allez, ça donne un peu plus de courage parce qu'on regarde pas la créature et on regarde le créateur. Donc sur certaines choses, allez, j'ai pas envie, mais je le fais parce que je sais que ça va faire plaisir à Dieu. Donc ça me donne envie de le faire. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur la patience, mais la patience aujourd'hui, ça manque cruellement dans nos couples. Encore une fois, la patience, ça ne veut pas dire être passif, parce que beaucoup de musulmans confondent ça. La patience égale passivité. Non, c'est pas du tout ça. C'est se dire, face à une épreuve, j'ai le droit d'être malheureux, j'ai le droit d'être triste. Nous sommes des êtres d'émotions et il ne faut pas nier les émotions. Mais c'est juste que je prends peut-être un petit peu le temps de digérer ce qui s'est passé. Je regarde si c'est possible ou pas de réparer en fonction de mes habiletés, de ma psychologie, de ma capacité ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout pardonner, qu'il faille tout accepter encore une fois. C'est pas ce que je dis. Mais voilà. Mais la patience, aujourd'hui, on est dans une société de consommation où en quelques secondes, on peut se faire livrer quelque chose, quelques minutes, où il y a tellement de choix que ça, finalement, on perd l'essentiel. Et donc, du coup, on pense que finalement, l'herbe, elle sera plus verte ailleurs, qu'alors que non, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, elle est à peu près la même partout. Après, bien évidemment, il y a une différence individuelle. Mais voilà, mais cette notion de patience, elle est fondamentale parce qu'aujourd'hui, les gens peinent à se marier et quand ils se marient, ils divorcent des fois même très rapidement. Il y a des gens qui, au bout de quelques jours, mais vraiment, hein, c'est pas une métaphore, hein, au bout de quelques jours de vie commune, divorcent. Quelques mois de vie commune divorce, c'est une réalité. Donc c'est pas quelqu'un qui me l'a dit, c'est la réalité des couples aujourd'hui musulmans, pratiquants. Je rajoute en plus de surcroît. Donc la patience, c'est quelque chose qui manque. C'est pour ça qu'il faut revenir un petit peu à l'essentiel et pas être happé par la société dans laquelle nous vivons. On est forcément happé parce qu'on vit dedans, on n'est pas des extraterrestres. Hein. Voilà, forcément qu'il y a des choses qui nous prennent, il y a des choses avec lesquelles normalement on devrait prendre un peu de distance, il y a des choses sur lesquelles on est absorbé. C'est une réalité humaine. On va pas se dire non, moi je suis musulman, ce qui se passe en Occident, ça n'impacte pas. Non, j'y crois pas
M'affecte
une
pas.
seconde. Non, attendez, on est des êtres humains, sinon voilà, on est là. À un moment donné, il y a du bon et du moins bon dans la société occidentale, comme dans nos sociétés à majorité musulmane, etc. Voilà, après ça. À nous de pouvoir faire le tri, mais c'est important des fois de se dire hey, je vais prendre un peu de recul et
Bah,
de pas tout de suite prendre une décision négative.
moi j'irais même que en fait il s'agit de garder le contrôle, c'est-à-dire qu'effectivement de comprendre qu'on vit dans une société qui est, moi je suis sûre, enfin ça a contre-courant avec beaucoup de nos principes religieux, et ça il faut le dire, je parle même pas forcément des vêtements, de ce qu'on voit dehors, mais ne serait-ce que la notion de patience. La patience, ça a contre-courant, comme tu le disais, de tout ce qu'on vit aujourd'hui où bah voilà, aujourd'hui tu vas sur Amazon, demain t'es livré, en fait c'est tout, c'est ça la
Le
vie,
jour même
c'est
des
ça la vie
fois,
qu'on vit, hein.
hein.
Parfois le jour même, c'est ça la vie qu'on mène. Donc
Ouais.
juste à se dire, être musulman, et si on veut rester dans un couple épanoui, pour vraiment reprendre le fil de notre thème, c'est que il faut garder le contrôle. Être musulman, c'est garder le contrôle, se dire, d'accord, je vis dans un monde où ça va vite, dans un monde où le temps n'est pas le temps que je devrais prendre, et il faut être capable de se dire, comment est-ce que je peux garder le contrôle. C'est pas toujours facile, mais de se dire, faut que je garde le contrôle, et quand je l'ai plus, faut être capable de se dire, là, Madina, t'es plus au contrôle de ta vie, t'as été happée par cette société, donc ça va te coûter ton couple, donc ça te coûte ta religiosité, comment tu peux faire?
Exactement, ça va déjà te coûter toi-même. Déjà, avant même de te coûter ton couple, c'est que déjà, si
Bien sûr.
soi-même on n'est pas bien, comme je disais tout à l'heure, on coupe, on sera pas bien. Et du coup, je rebondis sur la métaphore du coup qu'un de mes patients m'a faite il y a pas très longtemps de ça. Il me disait, un couple, c'est comme deux portes d'entrée. Donc, dans une maison, il y a deux portes d'entrée. Une, elle est régie par la femme, par l'épouse. L'autre, elle est régie par l'homme et par l'époux. Et du coup, c'est censé être deux boucliers face à l'extérieur. Pour recharger, pour que ces portes elles soient bien, pour qu'à l'intérieur de ce couple-là, donc de cette maison-là, ça se passe le mieux possible, sans que ça soit idéalisé, il faut que je m'arme, pardon, de certaines choses, des choses dont Dieu me met à disposition pour que je puisse protéger mon foyer. La prière, le dhikr, le Coran, après le jeûne, chacun après, alhamdoulilah, il y a plusieurs astuces. Chacun aussi en fonction de son cœur,
C'est pour ça, ouais.
de ce qui lui parle. Alhamdoulilah, il n'y a pas qu'un axe, parce que sinon, ça serait compliqué, parce qu'il y a des choses, voilà, on est plus attiré par certains actes d'adoration que d'autres. C'est notre réalité humaine et Dieu nous a fait ainsi. Mais du coup, si les deux portes sont bien gardées et qu'elles sont bien fermées, parce que je me suis, du mieux que j'ai pu, fait ce que j'ai pu en fonction des préceptes religieux, alhamdoulilah, je pourrais, dans la mesure du possible, préserver mon intérieur. Mais s'il y a une porte qui est pas suffisamment bien, qui est ouverte, parce que je me suis pas protégée, parce que j'ai pas fait mes invocations, parce que j'ai pas prié, du coup il y a plein de choses de l'extérieur qui vont rentrer dans mon couple. Et du coup ça va forcément être difficile. Parce que c'était un couple où le frère était pratiquant. La sœur ne, l'épouse ne l'était pas, et donc du coup c'est pour ça qu'il a utilisé cette métamorphore-là, pardon, et je pense qu'elle est très significative parce que du coup c'est,
Elle est
je
très
fais ce que,
forte.
voilà, et c'est pour ça que voilà, je tenais à la dire aujourd'hui, la partager avec vous tous et toutes, parce que je trouve qu'elle est très significative. Et si on fait ça, si déjà, alhamdoulilah, on se dit, allez, moi, qu'est-ce que je peux faire déjà moi en tant que personne? mes prières, mes petites choses, des petites actions comme ça, en fonction de ce que je peux et, voilà, et de mon intention. Déjà, ça va aider. Mais si je fais rien, bah, tout va rentrer dans mon couple. Chétane, les réseaux sociaux, etc. Et donc, du coup, ça va être une
tentation. Sous toutes ses formes, quoi.
Exactement, sûr, sous toutes ses formes. Exactement.
Ouais. Bah, je te remercie de cette métaphore parce que, du coup, ça permet de voir deux choses. C'est que, encore une fois, un couple, c'est une entité où l'un impacte l'autre, positivement ou négativement. Mais effectivement, s'il y en a un qui a pas bien isolé sa porte, bah, tout le monde va avoir froid, quoi. C'est pas juste toi. Et la deuxième chose, c'est que, tu sais, tout à l'heure, justement, on disait que demain, si tu fais une activité qui te fait pas forcément plaisir, parce que par exemple, il y a des hommes, ils vont devoir faire un travail hyper manuel, hyper physique, parce que c'est une obligation de subvenir aux besoins de leur foyer. Si ça tenait qu'à eux, ils le feraient pas, ça fait pas rêver. Mais quand tu replaces ça dans le contexte, c'est un acte d'adoration, alhamdoulilah, tu le vis autrement. Et c'est une réalité, ça, mais je tiens aussi à préciser que c'est pas juste nous dans nos têtes, je change mon mindset, affirmation positive, et donc du coup je vois la vie du bon côté. C'est plus profond que ça quand même, on le voit vraiment quand on converse avec Allah, quand on lui dit, Ya Allah, je fais ça pour toi, subhanallah, les choses changent véritablement. C'est pas que une histoire qu'on se dit dans notre tête, parce que parfois les gens qui croient un peu moins peuvent se dire, oh là là, les croyants, c'est quand même vraiment des gens, ils ont besoin de ça pour se rassurer. Si c'était aussi simple que ça, ça se saurait. Faire ces actes d'adoration, faire les choses pour Allah, ça change littéralement la dynamique entière de son foyer, entière.
C'est une réalité. Déjà, quand on fait les choses pour Dieu, on se sent apaisé. On est déjà individuellement, en tant que personne, on est plus en paix, plus en cohérence, plus épanoui, pour reprendre le terme du début de notre échange, et puis on sent de la baraka. Et ça, c'est une réalité. Quand on fait les choses pour Dieu, il y a des choses comme ça, entre guillemets, qui tombent du ciel, qui tombent de Dieu, et on sent qu'on est bien. Voilà, alors que, regardez, subhanallah, juste avant, les foyers de nos parents, avec des bons, leurs moins bons côtés, ils avaient très peu d'argent. Les papas étaient ouvriers en général. Donc, pourtant, avec Machal, il y a des familles très nombreuses. Pourtant, mais s'il y a eu des failles, bien évidemment, mais ils ont pu construire des choses qu'aujourd'hui, les gens avec 4, 5 000, 6 000 euros n'arrivent pas à construire. Si ce n'est pas la baraka, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais vraiment. Alors que c'est des gens, voilà. Ils étaient ouvriers, peu lettrés, peu instruits. Ils ont construit des choses magnifique, avec, rationnellement parlant, on se dit, mais c'est pas possible, comment ils ont fait? Je pense qu'on le voit tous dans les familles africaines, maghrébines, etc. Rationnellement, c'est impossible. Il faut dire les choses telles quelles. Aujourd'hui, il n'y a pas de baraka. Que Dieu me pardonne de parler comme ça. Il y en a dans certains foyers, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus, mais on sent qu'elle est de moins en moins présente. C'est une réalité. Pourtant, ce n'est pas les moyens financiers qui manquent, ce n'est pas les moyens physiques qui manquent, ce n'est pas les problèmes de santé. C'est juste que les gens ne sont pas heureux. Ils ne remercient pas Dieu. Il n'y a pas de gratitude, comme tu disais tout à l'heure, au début de l'échange. Il n'y a pas de baraka. Les gens, ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Et du coup, c'est catastrophique. C'est vraiment le mot. Et donc, du coup, tout à l'heure, je parlais de grille de lecture. On va faire les choses en fonction de ce qui est important pour nous. Si Dieu, c'est important pour moi, ben, les choses que je vais pouvoir faire au quotidien, le regard que je vais porter sur un événement, je vais essayer de le faire en fonction du domaine spirituel. Ça ne sera pas toujours possible, ça ne sera pas toujours facile, ça ne sera pas toujours évident. Je ne veux pas minimiser encore une fois. Mais si, encore une fois, le plus important dans ma vie, et je me suis mariée aussi en fonction de ça, on revient à ce que je disais lors du premier podcast, l'intention du mariage, c'est l'apparence physique, c'est le compte bancaire de l'un ou de l'autre, c'est ce qui gagne, c'est le super beau mariage à des dizaines de milliers d'euros. Eh, mais quand tout ça n'existe plus, qu'est-ce qui reste? Désolée d'être aussi crue, mais c'est une réalité. Les gens, ils ne se marient pas pour les bonnes raisons aujourd'hui. Et quand je leur pose la question, ils me regardent, quand je leur dis pourquoi vous êtes mariés, certains me disent, oh, c'est une bonne question. Des fois, les gens, voilà, il n'y a pas suffisamment de réflexion en amont, et notamment sur l'aspect spirituel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive des fois malheureusement, à des dégâts dans des couples. Mais ce qui est encore plus dommageable, c'est quand il y a des enfants. Où là, la tournure, elle est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus fragile, on va dire.
Oui, bien sûr, avec des conséquences plus lourdes. Est-ce qu'il y a des choses au niveau de l'axe spirituel que tu souhaitais rajouter sur le concrètement, comment on fait pour solidifier l'axe spirituel comme on a dit, on vérifie que les portes sont fermées en faisant nos actes d'adoration. On infuse l'islamité dans nos comportements. On fait preuve de patience. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois qui permettent de renforcer clairement et concrètement cet axe ?
D'abord, faut pas s'attendre à ce que l'autre fasse tout pour nous. On est d'accord. Il faut d'abord, ça c'est très important, se dire moi qu'est-ce que je peux faire déjà en fonction de ma propre personne. C'est pas l'autre qui, l'autre peut m'aider, peut m'accompagner, mais d'abord je me concentre sur moi, sur mes capacités. Bon, qu'est-ce que je peux faire moi pour m'améliorer au niveau spirituel? Est-ce que d'abord je, au niveau de mes prières, ça va, j'arrive à les faire à l'heure. Ça a commencé par la base. On va pas commencer à se dire, je vais jeûner lundi, jeudi, si la base, déjà, elle est pas là. On fait d'abord ce qui est, entre guillemets, obligatoire. On le solidifie bien au maximum, on le consolide bien. Après, au fur et à mesure, on va rajouter des choses déjà individuellement. Pour moi, c'est très important que déjà, on fasse un travail individuel. Suite à cela, c'est bien de faire des choses en couple, en fonction de la réalité, en fonction des envies, des besoins de l'un et de l'autre. Chacun une sensibilité, d'autres ça peut être la prière, d'autres ça peut être la lecture du Coran, d'autres ça peut être du dhikr, peu importe. Chacun, on a une sensibilité ou même plusieurs sensibilités. Donc peut-être se dire, je vais peut-être faire des choses dans mon foyer qui vont m'aider à être aussi mieux avec Dieu. Ça peut être prier ensemble. Ça peut être, moi je dis aux couples qui n'ont pas l'habitude justement d'avoir mis entre guillemets, des petites choses spirituelles dans leur couple, doucement mais sûrement. C'est pas, on va faire ci, on va faire ça. Oh, moi je leur dis sincèrement, en toute sincérité, je leur dis, écoutez, vous allez prendre 15 minutes dans la semaine, vous allez vous trouver quelque chose à faire tous les deux. 15 minutes, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas possible. Je ne vous ai pas dit 3 heures tous les jours, parce que là, c'est clairement, c'est très compliqué, voire impossible. Je leur dis, prenez une soirée dans la semaine si c'est plus facile, une fois que les enfants dorment, etc. Ou après votre journée de travail si vous n'avez pas des enfants. 15 minutes, de préférence, si vous pouvez faire, voilà, par exemple, de la nuit de jeudi à vendredi, un petit 15 minutes ensemble. Prenez un hadith, écoutez-le ensemble. Qu'est-ce que ça vous inspire? Une petite conférence, une lecture. Ça peut être des lectures, des fois, des très bons livres, alhamdoulilah, qui sont faits. Pas des trucs trop compliqués, des trucs qui sont accessibles à tous les deux, en fonction de ce qui leur parle à tous les deux. Des fois, des très bons livres qui font deux, trois pages, hein, mais qui sont d'une richesse et d'une profondeur extrême. On va le lire ensemble, on va le lire entre temps, sinon, et on se pose, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as échangé? Peu importe. À vous de voir ce qui est important pour vous, ce qui parle à votre cœur et à votre spiritualité. Pareil pour votre partenaire. Et trouver 15 minutes par semaine. 15 minutes, c'est accessible même pour des couples qui ont 4-5 enfants. 15 minutes par semaine. Et trouver quelque chose. Doucement, mais sûrement, faites-le. Commencez à le faire maintenant, jusqu'au bout. Et au fur et à mesure que ça sera bien consolidé, rajoutez peut-être une soirée dans la semaine, un autre acte d'adoration. Au fur et à mesure que de vos envies, de votre envie de vous rapprocher de Dieu, c'est pas quelque chose de figé, tout comme le couple, l'avancée spirituelle, elle est, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois où je vais être, alhamdoulilah, super bien, je sens une connexion avec Dieu. Des fois, ça va être très compliqué, parce que, je sais pas, des fois, j'ai perdu la connexion, j'ai perdu la wifi, si je peux me permettre de parler comme ça. Et donc, du coup, des fois, c'est compliqué. Et dans ces moments-là, j'ai pas besoin du jugement de mon partenaire. Ah, t'as vu, tu fais pas ça. Hein? Ah, non, pas besoin de ça. J'ai vu que là, t'avais pas prié. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te bloque? Sans jugement, viens, on va essayer de prier ensemble. Viens, on va essayer d'échanger, etc. Pas sous forme de reproche, parce que je vous garantis que ça ne mènera nulle part. Donc, c'est pas la peine de perdre votre temps et d'énergie sur cet axe-là, mais juste de l'entraide, de la bienveillance. Parce que la foi, on parle de mariage depuis tout à l'heure et de spiritualité, mais la foi, elle n'est pas acquise. Dieu guide qui veut. Et il peut tourner les corps, les cœurs en quelques instants. Donc, rien n'est acquis à ce niveau-là. Donc, pas de jugement. Parce que, voilà.
Non, je te remercie de le préciser parce que c'est très important et ça m'emmène à évoquer une chose, c'est que avant d'aller sur la question justement comment on fait quand l'un des deux partenaires est vraiment... enfin, vous êtes tous les deux à distance, en fait. C'est pas, j'allais dire, l'un des deux partenaires est derrière, mais peu importe qui est derrière, qui est devant, mais en tout cas, il y a un écart entre les deux. C'est ça qu'il faut essayer de... Enfin, comment on fait quand, justement, spirituellement, on a deux partenaires qui sont pas du tout au même niveau. Et j'étais en train de me poser cette question parce que, tu sais, on a parlé de... Enfin, tu as parlé de méditer autour d'un hadith, on peut méditer autour d'un ou une ayah, d'un ou deux versets. Mais la réalité, c'est que je pense que quand t'es spirituellement, justement, t'es plus connecté, je pense qu'il y a des fondamentaux. On n'en est pas à méditer sur des hadiths. Je pense pas, en tout cas. Je pense que quand c'est comme ça, c'est que, ben, il y a des vraies questions que tu te poses au niveau de ta croyance, au niveau de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, peut-être que, justement, ces 15 minutes-là, il faut aussi les prendre pour... en fait, faut se dire les choses. Si tu crois plus, si tu as un gros doute, avant même de parler des hadiths, parler de ça, en fait, parce que le doute fait partie de la vie du croyant. On en parlait avec mes neveux, et en fait, ils avaient le sentiment qu'on n'avait pas le droit de dire qu'on avait des doutes. J'ai dit, mais le doute fait partie de la vie. Ce n'est pas une solution que de se faire croire qu'on ne doute jamais. Bien sûr qu'on doute. La question, c'est de savoir où est-ce que je vais trouver mes réponses et comment je fais pour m'assurer effectivement de retrouver mon chemin. Parce que justement, la foi, elle se raffermit quand on s'est perdu et quand on a vu qu'on pouvait se retrouver. Et c'est possible. C'est possible. Donc, c'est pas qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas croire, mais en tout cas, ça ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. Et parfois, ces 15 minutes-là, il faut pouvoir se dire les choses et de se dire « Ok, là, j'ai vraiment un doute. Où est-ce que je vais chercher l'info ?» Eh bien, là, vous la trouverez. Vous la trouverez.
C'est beau ce que tu dis parce que, encore une fois, il ne faut pas nier ce qu'on ressent. Il y a des fois, il y a des patients qui me disent, croyants, pratiquants, ils me disent « j'ai pas osé vous dire certaines choses ». Ils ont droit, ils sont pas obligés de tout me dire, hein, c'est pas dans ce cadre-là, parce que en tant que croyant, j'ai pas le droit de penser ça. Je leur dis non. Avant d'être croyant, vous êtes un être humain avec des émotions. Donc il se peut, comme tu dis si bien, et c'est très bien de le dire, et je t'en remercie vraiment, sincèrement et vivement, on peut douter. On peut douter et ça fait partie du cheminement. Des fois, il y aura des hauts, il y a des bas, il y a des moments de très 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 grosses baisses de foi. Il y a des moments où oui, on peut douter. Et l'objectif, c'est pas de nier ça, c'est de dire non. Voilà, quelle est la réalité? Ma réalité, à un moment donné, je suis pas bien. Je doute. Qu'est-ce que je pourrais faire déjà moi individuellement, et puis là, ça serait bien que le partenaire aussi participe à ça pour que mon cœur s'apaise de nouveau. Mais c'est très très bien de pas nier les choses et ça peut tous nous arriver. Ça arrivait à des prophètes. Pourquoi ça nous arriverait pas à nous, alors qui nous sommes à des années-lumière, si je puis me permettre, cette réalité-là, sans juger qui que ce soit. Donc oui, c'est très bien de pas nier les choses et en fonction de ce qui pourrait peut-être me remplir, trouver quelque chose qui pourrait me remplir. Pour certaines personnes, à un moment donné, peut-être qu'elles vont douter, peut-être que, je sais pas, peut-être que la mort, ça va être un rappel très important pour elles. Pour d'autres, ça va être des personnes qui ont peut-être des personnes très rationnelles, très scientifiques, qui vont avoir besoin peut-être de lire sur les vérités scientifiques du Coran, sur la création, parce que ça leur parle à elles. Pour d'autres, non, ça passera pas très bien. Mais ça, c'est très bien de faire des choses en fonction de ce qui me nourrit, moi. Et moi, ce qui va me nourrir, c'est peut-être pas la même chose que l'autre. Et heureusement, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est très important de pas nier cette réalité-là et que l'autre ne juge pas. Parce que des fois, malheureusement, dans le couple musulman, on se dit non, mais je peux pas oser dire certaines choses à l'autre parce que l'autre va me juger. Alors que normalement, s'il y a un minimum de bienveillance et d'empathie, ça on en reparlera plus dans le deuxième axe, et ben l'autre n'est pas censé juger. Il est là pour accompagner l'autre, accueillir les émotions et pas les nier. Mais pour qu'on puisse dire ça à son partenaire, ce qui est quand même une sacrée confiance, une sacrée bienveillance. Parce que même entre nous, et va pas se voiler la face, entre croyants, qui serait capable de dire à son frère ou à sa sœur en islam, je doute. Imaginez-vous le contexte, sincèrement, qu'il y a un frère ou une sœur pratiquant qui vient vers vous, qui vous dit, je doute. Comment vous allez l'accueillir? Sincèrement, il y en a très peu qui pourraient l'accueillir avec bienveillance et sans jugement. Sincèrement, j'en suis persuadée. Ça va être plutôt du blâme. Comment ça, tu doutes de l'existence de Dieu? Non, mais ça va pas, non? Ça va être ça. Ça, c'est pas la peine. La personne, elle vous en parle. Il va bien évidemment. Il va bien évidemment. Qui doute? C'est pas la même chose. Qui doute, c'est que le cœur, il est vivant. Alhamdoulilah. S'il y a du doute, c'est que le cœur est vivant. S'il n'y a plus rien, là c'est autre chose. Mais s'il y a le cœur comme ça qui travaille, qui se bouleverse, qui médite, c'est qu'alhamdoulilah, le cœur est vivant, au sens spirituel du terme. Donc c'est très important. Mais pour ça, il faut qu'il n'y ait pas de jugement. Il faut qu'il y ait de la bienveillance. Et ça, c'est dur. C'est très dur. Sincèrement.
Justement, on va... Ça donne une belle transition pour montrer déjà à quel point les axes sont liés. Et justement, ça va nous permettre d'avancer vers le second acte, si tu le veux bien, qui est l'axe, tu vas nous le présenter, mais je trouve ça très intéressant parce que ça a été une transition naturelle de dire que l'axe spirituel, religieux, c'est la base, mais il est lié à un second axe et chacun des trois axes va se nourrir comme on va le voir.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu. Et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leurs doigts. Qu'Allah Zawajel vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.
Imagine a place where you can escape for a day. Get immersed in a world of rooms, inspiration, and expertise. Where you can laze in luxury accommodation. And kids can feast from 95 pence. Tickets are free to everyone this Easter and include all the attractions. You've just imagined a day out at IKEA. IKEA, the wonderful everyday.